Et maintenant, place au théâtre.
Aux origines de ce sixième épisode se niche une fête en Seine-et-Marne. À 50 km au sud-est de Paris, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, a bluffé tout le monde. Dont le facétieux Lagrange, comédien de la troupe de Molière.
Ça n'a pas l'air vrai, pourtant c'est vrai. Hier soir, 17 août 1661, à la date fixée par le surintendant Fouquet, nous avons joué les fâcheux pour la première fois au château de Vaux-le-Vicomte, en présence du roi. Nous l'avons joué jusqu'au bout, sans une erreur, sans un trou de mémoire. Les intermèdes ont eu lieu lorsqu'il le fallait, les musiciens n'ont pas fait une fausse note, les danseurs ont dansé, la coquille de nacre de Madeleine s'est ouverte à la minute prévue, les jets d'eau ont fonctionné. En résumé, succès, succès et succès.
Un tel succès que Louis XIV en fut exaspéré et humilié. 15 jours plus tard, Fouquet était en Bastille, crime de lèse-majesté. Mais ce soir-là, à Vaux-le-Vicomte, le jeune roi Soleil a pris conscience de l'importance des spectacles et du théâtre dans l'exercice de son pouvoir.
Argument du divertissement royal.
Monarque absolu et représentant de Dieu sur Terre, il a senti que son prestige devait aussi passer par la magnificence des menus plaisirs. Les arts vivants devaient donc se mettre au service de son règne.
Je conduis mes chevaux lumineux, qui traînent la splendeur et l'éclat avec eux.
Louis XIV a compris qu'il fallait aussi séduire les cœurs. Et pour ce faire, rien de mieux que d'offrir à sa cour les réjouissances du théâtre.
Je suis l'astre des rois !
Et dans ce dispositif festif et politique, Molière a pris une place prépondérante. Molière et le roi ont très vite développé une relation de connivence, car l'un et l'autre avaient tout intérêt à cheminer ensemble. Voici donc l'histoire d'un fils de tapissier au service du plus grand roi du monde.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence !
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
Sixième épisode, mon ami le roi.
Pierrette, va cette nuit dans l'antichambre de monsieur le cardinal pour connaître son état.
Oui, sire.
S'il rendait l'âme, il faudrait venir me prévenir, quelle que fût l'heure.
L'histoire commence le 9 mars 1661. Dans les corridors du château de Vincennes, dans un silence de glace, on parle à voix basse, on s'agite et on s'inquiète.
Le roi est inquiet de l'état de santé du cardinal. Je viens veiller avec vous.
Dans un petit appartement du pavillon du roi, le premier des ministres gémit. Alité, Jules Mazarin souffre, ravagé par la maladie. Le corps du cardinal est assailli depuis des mois. Il se délite, les jambes décharnées, couvertes d'ulcères. À bout de force, le cardinal finit par rendre l'âme.
Ce matin-là, ainsi que l'a remarqué Paul Morand, le grand siècle commençait. Peut-être est-ce aussi de ce même jour que Louis, avec Colbert que lui avait légué Mazarin, prépara la chute du surintendant. La fin, comme l'a dit Michelet, de l'exploitation de la France par un coquin pour un coquin, puisque le second coquin, le sieur Mazarini, n'était plus.
En effet, avec la mort de Mazarin, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, a de quoi être inquiet. Mais s'en doute-t-il vraiment ? L'arrogance de Fouquet lui fait commettre une erreur. En courtisant sûr de lui, il décide d'organiser une fête inouïe pour épater son souverain le 17 août 1661.
Attention à vous autres.
Ah, oui. Oh, c'est pas vite la grande échelle.
Des fleurs, là, on se passe, vite.
De l'or, là, là, oui, oui.
Mais non, plus de gris,
alors, monsieur Vatel, m'offrez-vous bonne chère ?
Je mets la dernière main à la délicatesse des mets du plus fastueux de tous les soupers que monseigneur m'a fait l'honneur de me commander. Aussi viens-je de présider au ruissellement du caramel des sucreries de l'ambigu qui sera servi après le feu.
Et vous, monsieur mon maître d'hôtel ?
Je viens, selon vos ordres, monseigneur, de faire placer sur les 80 tables les 36 douzaines d'assiettes en or et les 500 douzaines d'assiettes en argent que votre trésorier m'a donné.
Allons dans le parc. Venez-vous avec moi, monsieur de La Fontaine ?
Avec joie, monseigneur.
La Fontaine, mais aussi Vatel, Levaux, Lenôtre, Lebrun, tous les artistes du temps gravitent autour de Nicolas Fouquet. Et même Molière, à qui Fouquet a demandé de mettre son talent au service de cette grande fête pour le roi.
Fouquet reçoit le roi de France au château de Vaux.
Ce fut par une belle nuit d'août, à la clarté des flambeaux, des bougies de cire et des feux d'artifice, dans un beau jardin d'Île-de-France. Et tout cela préfigure déjà les futures grandes fêtes dans les bosquets de Versailles.
La Fontaine, dont Fouquet faisait grand cas, a décrit l'enchantement de cette nuit magnifique.
On avait dressé le théâtre au bas de l'allée de sapins, parmi la fraîcheur agréable des fontaines, des bois, de l'ombre et des zéphyrs. De feuillages touffus, la scène était parée et de cent flambeaux éclairés. Le ciel en fut jaloux. Enfin, figure-toi que lorsqu'on eut tiré l'étoile, tout combattit à Vaux pour le plaisir du roi, la musique, les eaux, les lustres, les étoiles.
Grandiose fut la fête et le public ravi. Mais le spectacle à peine fini, une calèche reprend la route de Fontainebleau.
Le roi, tournant le dos à Vaux, regagne Fontainebleau dans sa grande calèche tirée par 6 chevaux blancs.
Quand vous pensez, ma mère, que monsieur le surintendant a osé m'offrir son domaine de Vaux, un cadeau du sieur Fouquet au roi de France, quelle lèse-majesté! J'aurais dû faire arrêter Fouquet sur l'heure.
Arrêter le surintendant?
Bien sûr! Il faudra bien faire rendre gorge à tous ces gens-là.
Nicolas Fouquet fait, au moment donc de la fête de 61, une véritable erreur politique.
L'historien Martial Poisson.
Puisque pensant honorer son roi, il organise une fête d'un faste inédit à l'époque. C'est la première fois qu'autant de magnificences sont réunies en un même lieu, au même moment, pour la même occasion et pour célébrer un roi. Et l'objectif est de magnifier aux yeux de tous la position dominante qu'il a acquis au sein du royaume. Et c'est la raison précise pour laquelle il va finalement susciter le courroux de Louis XIV. Un Louis XIV qui à la fois prend conscience à ce moment-là du pouvoir de propagande du spectacle vivant, des grandes fêtes de la cour, et en même temps de ce qui l'assimile à un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire le fait que son ministre, aussi puissant et riche soit-il, puisse organiser une fête plus fastueuse que les siennes. Donc c'est le moment où Fouquet, au sommet de la gloire, va être frappé finalement par la disgrâce, va être jugé pour crime de lèse-majesté et va disparaître finalement du paysage politique.
Le 5 septembre 1661, la cour est à Nantes et Nicolas Fouquet est arrêté par un officier du roi.
Cet officier se nomme Monsieur D'Artagnan.
Oui, à la méchante affaire. Je descendis l'escalier en courant, je sautai à cheval et suivi d'une quinzaine d'hommes, je rattrapai en effet Fouquet devant la cathédrale. Sur un geste de moi, la chaise s'immobilisa. Je balayai les pavés d'un large coup de mon chapeau emplumé et montrai l'ordre d'arrestation.
Ça ne peut être qu'un malentendu. Je suis dans l'esprit du roi mieux que personne du royaume.
Assurément.
Je vous suis, monsieur D'Artagnan.
Qu'est-ce qui pousse, à ce moment-là, Louis XIV, à arrêter le surintendant des finances du royaume ?
Mazarin est mort en mars, et depuis plusieurs années, Colbert, qui n'était qu'intendant de Mazarin, travaille Louis XIV pour lui dénoncer les malversations de Fouquet.
L'historien Thierry Sarment.
Déjà, Fouquet est sur une pente descendante et il semblerait que Fouquet se paie un peu la tête de Louis XIV et lui cache un peu la réalité des finances. Voilà, c'est ce qui ressort. Et puis, plus profondément, il y a besoin d'un bouc émissaire de la gestion de Mazarin. Et ce bouc émissaire sera Fouquet.
Et c'est à la forteresse de Pignerol, le 13 mars 1680, après 18 ans et 6 mois de captivité, que Fouquet mourut d'apoplexie.
Ah, Fouquet avait essuyé la plâtre, et à quelques exceptions près, ce furent les artistes découverts et somptueusement entretenus par lui que Louis XIV s'annexa. Et en premier lieu, Molière, qui entra plus avant encore dans la faveur du roi au lendemain de cette fastueuse nuit.
Molière est donc un des architectes de cette soirée à Vaux-le-Vicomte, donc il est au service de Fouquet, mais il va s'en sortir, il va très vite être au service de Louis XIV, donc il a échappé à cette lutte politique très féroce entre Louis XIV et Fouquet.
Bah, tout simplement parce que Molière, comme tous ces artistes du temps, ne sont pas des acteurs de la vie politique. Ils sont considérés comme des domestiques d'un statut un peu supérieur ou des prestataires, mais ils ne sont pas des intervenants, en tout cas pas directs, de la lutte entre ministres ou entre princes. En plus, Molière est un protégé du frère de Louis XIV, de Monsieur, dont sa troupe porte le nom depuis 1658.
Aujourd'hui, la face du théâtre change. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres, sous la direction de feu le cardinal Mazarin. Désormais, je régnerai seul. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Vous savez mes volontés, messieurs. C'est à vous maintenant de les exécuter.
Lorsque Louis XIV s'empare du pouvoir en 1661, Thierry Sarmont, un coup de théâtre là aussi quasiment, il a 22 ans ou 23 ans, c'est un jeune souverain, ambitieux, belliqueux, courageux. Mais à quoi ressemblent les toutes premières années de son règne?
C'est l'époque de la cour galante. C'est l'époque où Louis XIV, étant marié avec Marie-Thérèse d'Autriche, la trompe dès la première année du mariage, finalement, il a pris son goût de la vie de société auprès d'Anne d'Autriche, dans un cercle très féminin, donc il a le goût de la fréquentation des
femmes.
C'est
sa mère, hein, Anne d'Autriche.
Sa mère, oui. Mm-hmm. Et il aime à s'entourer de femmes, soit pour leur faire la cour, soit tout simplement pour l'agrément de leur conversation et de leur compagnie. Et donc, c'est le moment où la cour s'amuse beaucoup. Alors, Anne d'Autriche s'efface, et on voit monter en puissance, notamment, la belle-sœur de Louis XIV, Madame Henriette d'Angleterre, qui anime cette vie de cour très joyeuse, très galante. Et le roi, parfois, aime à grimper sur les terrasses de Saint-Germain pour rejoindre les filles de la reine et pour leur conter fleurette.
Donc une vie, certes, corsetée dans les codes, mais une vie de plaisir aussi pour Louis XIV.
Une vie de plaisir. On est vraiment dans la première phase solaire du règne de Louis XIV, où, tout en étant fort pieux et de la piété démonstrative qu'il a héritée de sa mère, eh bien, le roi ne se croit pas astreint à tous les devoirs qu'imposerait la religion catholique.
Alors, on a l'image, justement, Thierry Sarmont, d'un roi soleil, sensible aux arts, un roi danseur, un roi mécène. Mais est-ce qu'il était érudit? Et est-ce qu'on connaît son niveau d'éducation?
Alors, on sait qu'il a eu des précepteurs, notamment Ardoin de Péréfix. Témoignage général est qu'il a été peu sensible aux lettres. Primi Visconti dit qu'il n'a jamais ouvert un livre une fois ses études terminées, sinon pour regarder la dédicace faite à sa gloire. Voilà. Donc, ça n'est pas du tout un homme lettré. Il est plus sensible à la musique, à la danse, à tout ce qui est cette culture chevaleresque, des courses de bagues, tout ce qui a succédé au tournoi, en fait. Voilà. Et c'est un homme des spectacles, mais certainement pas du livre.
Et alors, quel regard cet homme-là que vous décrivez porte-t-il sur les œuvres et les pièces de Molière?
Alors, c'est là où on va un peu décevoir les moliéristes et les admirateurs de Molière, c'est que pour Louis XIV, Molière, c'est ce que Louis de Funès c'était pour Charles de Gaulle, c'est un amuseur. Et la dimension politique ou sociale ou de critique sociale de ces pièces n'est pas immédiatement sensible. On est à une époque où le statut de l'homme de lettres change. Mais pour lui, l'homme de lettres, c'est l'homme de lettres sérieux, c'est-à-dire celui qui écrit des poèmes, des ouvrages d'histoire, éventuellement des tragédies, mais certainement pas le comique.
Il arrive ! Dieu soit loué ! Tout le monde en place ! Et vite !
Faites savoir que nous avons l'intention d'installer la cour au château de Versailles durant le mois de mai. En cette fin d'augure favorable, les plus grands modèles de toute l'humanité doivent incarner la vraie gloire de la France dans un palais d'une splendeur qui sera retentissante et éternelle. Le paradis sera à Versailles. Applaudissements.
Après s'être débarrassé de Nicolas Fouquet, démontrant ainsi à son noble entourage sa détermination féroce à évincer ses ennemis, Louis XIV rêve de Versailles comme le lieu éclatant où doit s'exercer son pouvoir absolu.
C'est les clés du château.
Voilà. Donc je suis Raphaël Masson, conservateur en chef au château de Versailles et je m'occupe plus particulièrement de la recherche appliquée aux collections et de la conservation des deux théâtres.
Est-ce que ça craquait comme ça du temps de Louis XIV ?
Ah, bien sûr, ça craquait au point de s'effondrer parfois, mais bon. Voilà, donc là on arrive dans la chambre du roi. La vérité m'oblige à dire que c'est pas la chambre qu'a connue Molière, hein, pas du tout. La chambre qu'a connue Molière était dans la pièce à côté. Mais en 1700, donc bien longtemps après la mort de Molière, Louis XIV décide de modifier son appartement intérieur. Et donc ce salon central, hein, qui ouvrait autrefois sur la Galerie des Glaces, en plein milieu de la Galerie des Glaces, on en fait la chambre royale, la chambre où il est mort d'ailleurs. Donc vraiment le lieu symbolique très très fort parce que dans le système de la monarchie française, la chambre a une dimension, je dirais presque mystique, beaucoup plus importante que le trône royal qui là est simplement un objet décoratif qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Alors que le lit du roi s'est hérité vraiment de cette symbolique médiévale. On voit d'ailleurs qu'il est protégé d'une barrière. Oui, c'est une barrière vraiment qui est infranchissable par tout un chacun. Et quand on passait même dans la chambre, alors que le roi n'y était pas, ce qui pouvait arriver, on était tenu de saluer le lit. Et regardez l'architecture de cette pièce. Alors, c'est quand même une pièce, on ne se rend pas compte, mais elle fait 100 mètres carrés.
Ah oui.
Donc c'est une pièce qui est très vaste. Je ne dirais pas combien il y a de mètres sous plafond, mais il y en a à peu près une dizaine. Hein. Donc c'est une pièce qui est très importante, qui s'ouvre par trois grandes fenêtres, double fenêtres, sur la cour. Et pour servir le roi, donc là, effectivement, il y a toute une administration, une organisation, hein, placée sous l'autorité du premier gentilhomme de la chambre du roi, qui était une des charges les plus importantes, hein, parce que ça donnait un accès aussi privilégié
au
souverain. Voilà. Et puis après, toute une armée de valets de chambre, même placés sous l'autorité du premier valet de chambre. Et puis, on va parler de ces valets de chambre tapissiers, parce que Molière était valet de chambre tapissier du roi. Alors,
c'est-à-dire que son père l'était ?
Son père l'était. Il a repris la charge parce que c'est une charge de cour, c'est un office. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se transmettre et qui s'achète. Donc, ça a une valeur marchande très importante. Un office a d'abord une valeur marchande. Et en plus, c'est quelque chose, d'un point de vue social, qui vous confère le titre d'écuyer, c'est-à-dire un premier marchepied vers la noblesse. Molière n'était pas noble, mais il avait ce titre d'écuyer qui était afférent à cet office de valet de chambre tapissier. Et, entre autres activités, il contribuait à aider à faire le lit du roi, hein, tous les matins, mais du côté du pied, simplement. La tête était réservée au valet de chambre. Vous voyez, des subtilités.
On époussette les pieds.
Voilà, on remet un peu d'ordre. Voilà, bon, c'était pas quelque chose de bien compliqué. Ça donnait au titulaire de cette charge le droit d'entrer dans la chambre du roi, mais à certains moments, on avait quand même un accès à la cour. Ce qui explique aussi comment Molière peut observer ce qu'il a autour de lui. Il sait très très bien comment ça fonctionne. Il sait quelle est la foule qui se presse dans l'antichambre, juste avant la chambre, en attendant le lever du roi. Donc tout cela, il connaît bien.
Et filii et spiritus sancti. Amen.
La glaisance que lui donnent ses succès au théâtre. Qu'a-t-il besoin d'être encore valet tapissier 90 matins par an ?
Comédien à la scène, comédien à la cour. Cette charge transmise par son père est un joli complément à ses revenus. Et un excellent sauf-conduit pour rester proche de l'oreille de notre souverain. Molière est un habile.
Oui, cette ringa in secula seculorum.
Amen.
Que se passe-t-il ? La reine appelle ?
Non, non. Elle fait savoir que le roi a accompli cette nuit le devoir conjugal.
Cette charge de tapissier, valet de chambre du roi, qu'exerce Molière à partir de 1661, a suscité beaucoup de fantasmes sur ses relations avec Louis XIV.
Alors, la vraie question concernant Molière, c'est comme il avait cette charge de valet de chambre tapissier, c'est dans quelle mesure l'a-t-il exercé et dans quelle mesure en a-t-il tiré parti pour approcher le roi? Ça n'est pas très clair. J'aurais tendance à douter qu'il l'ait exercé en personne régulièrement. Alors, il y a des vers de Molière où il raconte comment on cherche à s'approcher de la chaise percée du roi au moment de cette audience du matin. Donc je pense que c'est arrivé, mais je doute qu'il ait eu la possibilité d'exercer sa charge continuellement. Vu le rôle qu'il avait au théâtre.
Oui, donc en fait, ça veut dire qu'il n'y était pas si souvent.
Non.
Premièrement, et secondement, on n'est pas du tout certain qu'il ait pu parler à Louis XIV en ces moments-là.
Alors, rien n'est impossible, parce que ça papillonne autour du roi, et puis il peut lui-même de temps en temps repérer un visage. Mais c'est certainement pas une familiarité de tous les jours.
La légende, Thierry Sarment aime à raconter une grande connivence, une grande complicité entre deux jeunes hommes, à vrai dire, entre Molière et Louis XIV. Qu'en est-il réellement de cette complicité?
Alors, c'est une invention pure et simple, pour des raisons. Alors, on peut d'abord évoquer des questions de génération, puisque Molière a 15 ans de plus que Louis XIV. Pour des raisons sociales que j'ai expliquées, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un roi et de l'autre un domestique. Et puis tout simplement parce que les amis de Louis XIV, s'il en a, ce sont ses favoris aristocrates. Le roi de France est le premier gentilhomme de son royaume, et donc les quelques personnes avec qui il peut avoir des rapports de connivence, ce sont les gens de ce milieu. Alors, ça ennuie beaucoup les spécialistes des différents domaines, puisque les musicologues voudraient bien que Lully ait été l'ami de Louis XIV, les historiens de la peinture voudraient que Lebrun soit, et ainsi de suite, pour Vauban, pour le nôtre, etc. Mais tous ces personnages, qui pour nous sont des monuments du règne de Louis XIV, pour lui, ce sont des protégés. Ils sont dans sa domesticité élargie, ce sont des personnes qu'il protège.
Voilà. Ce sont des serviteurs.
Ce sont des serviteurs avec qui il peut être bienveillant, mais il n'y a aucune espèce de connivence. Alors, le mythe s'appuie sur un tableau qu'on reproduit souvent où on voit Molière déjeunant à la table de Louis XIV. Et en fait, c'est une invention absolue.
C'est un tableau de 1863 qui est peint par Jean-Léon Gérôme. Qu'est-ce que ça raconte, ce tableau, et d'où vient cette anecdote?
Alors, l'anecdote vient de Madame Campan. Madame Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette, qui, en 1822, à la fin de sa vie, rapporte dans un de ses écrits le fait que, comme Molière était maltraité par les autres valets de chambre du roi, le roi l'aurait invité à déjeuner à sa table. Mais on voit bien que l'anecdote est très tardive, mais elle est impossible pour des tas de raisons d'étiquette. Et aussi, Madame Campan a tout intérêt, ayant été elle-même issue de la domesticité royale, à hausser le statut de ces personnages. Alors elle dit qu'elle tient l'anecdote de son père, qui lui-même la tenait d'un médecin, qui lui-même le tenait de Louis XIV. Donc vous voyez, la crédibilité de ce témoignage est absolument impossible. Au contraire, à l'époque, quand on n'est pas un membre de la famille royale, on ne peut être convié à la table du roi que pendant les campagnes militaires, quand on est un gentilhomme faisant partie de l'armée. Et c'est considéré comme un honneur extraordinaire.
Mais alors, qu'est-ce que ça raconte en 1863, cette exposition à la même table de Louis XIV et de Molière?
Ça parle du statut de l'artiste au XIXe siècle. Voilà. Au XIXe siècle, où on veut que l'artiste soit un personnage qui est l'égal des politiques, des grands, des monarques. Mais c'est évidemment un anachronisme absolu par rapport à l'époque dont nous parlons ce soir.
En résumé donc, pas d'amitié entre Louis XIV et Molière, pas d'intimité. Le roi était le roi et il demeurait largement inaccessible à ses serviteurs.
Je n'ai pas d'amis.
Cela dit, qu'est-ce qui unissait alors le fils de tapissier et le plus grand roi du monde ?
Il y a une relation de connivence, on pourrait dire idéologique, ou une communauté de valeurs, on va dire, en tout cas, entre ce jeune roi festif, libertin, galant, probablement assez libre dans ses convictions, même si évidemment il observe tous les rites religieux de son temps, puisque ça conditionne l'exercice de sa fonction. Hein. Mais juste en sortant de la messe, il va se divertir. Donc il y a une communauté de vues entre ces jeunes gens. Et ce qui est vrai aussi, c'est que Molière et le roi ont un intérêt stratégique à mettre en scène, et c'est peut-être ce qui a entraîné cette surinterprétation, une alliance tactique, puisque Molière offre au roi un rayonnement. Il participe à ce qu'on pourrait appeler une politique de la grandeur, en fait. Il est celui qui va organiser les fêtes somptueuses qui sont destinées à sidérer le regard à la fois de la cour, mais également des ambassades. Donc c'est un outil politique et même un outil d'ambassade que ces grandes fêtes royales qui se déroule aussi bien au Louvre qu'à Versailles. Et à l'inverse, le roi apporte à Molière un soutien bienveillant qui lui permettra, même au cœur de la cabale, hein, entre 1664 et 1669, alors que l'Église ne va rien lâcher, en fait, et veut véritablement avoir sa peau, sans pouvoir ouvertement le soutenir, il va jamais le désavouer. Donc, il va être une sorte de soutien à distance qui va permettre à Molière de se maintenir dans une position dominante et d'aller de plus en plus loin, d'ailleurs, dans la provocation à l'égard notamment de l'Église.
Molière !
Sire.
Nous allons parler théâtre.
Dans sa conquête des cœurs et des esprits de la cour, Louis le Grand a un projet très précis.
Le projet auquel je rêve, c'est une grande semaine de fête à Versailles, au mois de mai prochain.
Un projet de séduction et de prestige qu'il va confier à Molière.
Le château est terminé maintenant. C'est un écrin digne de la plus belle des reines. J'entends la Vallière.
J'avais bien compris.
Il faudrait un titre. Je ne l'ai pas trouvé. Avec le mot plaisir et peut-être aussi le mot enchanteur ou enchanté.
On va évoquer une fête, des premières fêtes qu'il y a eu à Versailles en 1664.
Voilà, c'est cette fête mythique dont on conserve toujours le souvenir, qui a un nom magnifique, les plaisirs de l'île enchantée. Donc ça déjà, c'est d'une poésie. Alors qu'est-ce que c'était que cette île enchantée ? Là, il faut se mettre dans le contexte de cette cour qui est quand même lettrée, qui a des connaissances. Et là, on va partir du Roland Furieux de l'Arioste, qui est une poésie italienne, alors très très importante et que tout le monde connaît. Et on va partir d'un postulat, une sorte de jeu en disant, et si Versailles était l'île de la magicienne Alcine ou Alcina en italien, on va jouer comme si on était prisonnier de cette magicienne. Et qu'est-ce que fait cette magicienne pour retenir les chevaliers en son pouvoir? Eh bien, elle les amuse, elle leur donne des divertissements, elle fait en sorte qu'ils n'aient plus jamais envie de quitter son île enchantée. Et donc le roi va être le héros de la fête. Alors Alcine ne sera jamais montrée, mais le roi va être le chevalier qui, avec toute sa cour, va être prisonnier.
Parce que le roi joue et danse ?
Alors, le roi, dans cette fête-là, il ne va pas jouer, vraiment. À cette époque-là, dans les fêtes de Versailles, le roi n'est jamais acteur. On le montre cavalier, mais il ne va jamais danser.
Il ne va pas incarner un personnage ?
Non, il ne va pas incarner un personnage. Lorsqu'il le fait, on n'est pas tout à fait dans le même cadre. Il va le faire dans le cadre de ballet de cour, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu fermé, qui est réservé à la cour, à des danseurs professionnels et surtout à la cour. Et là, il va pouvoir montrer son agilité. Là, ça se passe plutôt dans sa jeunesse à Paris ou à Saint-Germain-en-Laye. Mais à Versailles, non. Il n'est pas du tout question qu'il danse devant le corps diplomatique. Vous voyez, c'est des choses là qui sont déjà finies. À Versailles, le roi est quasiment tout le temps spectateur, sauf au début des plaisirs de l'île enchantée. Mais là, il est cavalier. Donc là, ça marche.
Rien ne passera jamais la splendeur de ces fêtes. 10 journées de joie et de rire pendant lesquelles la vie de notre pauvre coin était remuée de fond en comble. Nous, dans nos chaumières, songeant aux dégâts que nous portaient les chasses des rois, nous appréhendions cette foule de seigneurs et cette populace qui accourait de Paris. À vrai dire, moi-même, familier des bâtiments, j'étais des rares qui osaient se mêler aux Parisiens et franchir les grilles.
Qu'est-ce qui motive, chez Louis XIV, l'organisation de cette fête ? Pourquoi souhaite-t-il, à ce moment-là précis dans sa vie, organiser les plaisirs de l'île enchantée ?
Alors, les plaisirs de l'île enchantée, c'est la réponse à distance à ce que Louis XIV a perçu comme l'humiliation des fêtes de Vaud. C'est la première fête que Louis XIV organise en son nom propre et dont il conçoit le programme d'une certaine façon. Un programme qui est un véritable festival Molière. D'ailleurs, soit dit en passant, plusieurs pièces de Molière sont jouées à cette occasion, dont des créations. Donc, c'est Louis XIV XIV qui inaugure ce qui deviendra sa politique de rayonnement, par le faste, par la splendeur, par la magnificence, se rendre incontestable par une sorte de politique de l'image. Il a même d'ailleurs une institution qui travaille à ça, hein, c'est la Petite Académie. La Petite Académie, c'est un petit club très fermé qui comprend le ministre Colbert, bien sûr, qui comprend le président de l'Académie française et dont le rôle est uniquement de conseiller le roi dans la gestion de son image, en fait. Hein, donc il y a vraiment un outil de propagande, si on peut dire, en termes modernes, qui est construit à ce moment-là. Et au sein duquel le spectacle, sous toutes ses formes, et notamment ce qu'on appelle les arts mêlés, c'est-à-dire les spectacles de théâtre, de musique et de danse, hein, ceux qui permettent les apparitions les plus fastueuses, qui permettent l'exercice le plus accompli de son art, vont jouer un rôle tout à fait décisif. Et le théâtre de Molière contribue à cela.
Messieurs les tailleurs, mesdames les brodeuses, les passementières, je m'en suis venu voir où en étaient les costumes du défilé qui sera donné le premier jour à 6 heures du soir.
Ils sont bien prêts d'être terminés, monsieur Molière. Voici celui du duc de Saint-Aignan.
Oh, félicitations. Cette cuirasse d'écailles d'or est fort réussie. Et le casque avec ses plumes rouges, blanches et noires, un panache de la plus belle allure.
Imaginez, vous arrivez, et le premier spectacle, c'est une sorte de cavalcade, de carrousel. Et là, on va voir arriver les cavaliers, donc le roi et puis les jeunes gens de la cour, hein, les meilleurs cavaliers de la cour, tous habillés de façon extrêmement chamarrée, donc c'est absolument délirant. Ces cavaliers vont faire une sorte de ballet équestre, hein, au son de musiciens qui eux-mêmes sont sur des chevaux, trompettes et timbales, hein, en fait. Et à partir de ce moment-là, on va voir arriver au détour d'une allée un énorme char doré avec des gradins sur lequel Molière et sa troupe prennent place et vont déclamer des vers de circonstance, compliments à la reine-mère, compliments à la reine Marie-Thérèse, pas du meilleur, de la meilleure littérature, mais enfin en tout cas, voilà, on mêle à la fois la poésie, l'exercice équestre, donc tout ça se passe bien.
Je suis la source des clartés et les astres les plus vantés dont le beau cercle m'environne ne sont brillants et respectés que par l'éclat que je leur donne.
Hop, changement, je dirais, de décor à vue. On va faire disparaître le char. On va installer une barrière au milieu, une potence à laquelle on suspend un anneau. Hein, et là, ça va être la course de bagues. La course de bagues, c'est une sorte d'avatar des tournois médiévaux, dont je trouve que c'est beaucoup moins meurtrier. Sauf que là, vous avez un cheval qui est lancé au galop. Vous avez votre lance et vous devez, avec votre lance, emporter l'anneau qui est suspendu à la potence. Toute la cour assiste à ça. Le vainqueur est récompensé par une épée en diamant offert par la reine, enfin tout ça se passe très bien. Et comme la journée n'est pas finie, il y a des personnages costumés qui arrivent. Alors c'est tout simplement des officiers de la maison du roi, hein, les officiers de la bouche, c'est-à-dire qui vont s'occuper des nourritures terrestres. Et là, on va dresser une table en demi-lune, va y avoir le feuillage qui va s'écarter pour laisser passer, montrer une sorte de gradin avec tous les musiciens de Lully qui sont là. Et le roi va prendre place à cette table avec les dames de la cour. Je dis bien les dames de la cour parce que le roi ne mange jamais en compagnie d'hommes. Même quand il soupe le soir au grand couvert, les hommes qui peuvent être à sa table, c'est tout simplement son frère, son fils aîné, voire ses petits-enfants, mais c'est tout. Et puis, on arrive à un autre soir où là, on va s'avancer dans l'allée royale et on a dressé un théâtre en plein milieu. Molière est à l'œuvre, hein, il a aidé à concevoir la thématique générale et en plus, on lui a demandé de fournir des pièces nouvelles. Et donc là, c'est la Princesse des Lides. Donc, c'est une pièce un peu bancale, hein, qui est donnée, mais apparemment, le roi ne lui en tient absolument pas rigueur, d'autant plus qu'il fait crouler de rire toute la cour en étant, en interprétant le rôle d'un valet complètement effrayé par l'apparition d'un faux ours comme ça. Enfin bon, et donc là, il y a une scène de comédie, de bouffonnerie pure.
Oh, oh! Oh, belle gorge, belle petite menotte, petits ongles bien faits, à l'aide, au secours, je suis mort, miséricorde, pauvre Moron, oh mon Dieu, et vite, à moi, je suis perdu!
Et apparemment, toute la cour rit aux larmes, le roi le premier. Et cette comédie est intercalée d'airs de Lully. Donc on a une collaboration absolument parfaite entre les deux Baptistes, hein, comme on les appelait à l'époque, Jean-Baptiste Lully, Jean-Baptiste Poquelin. Et là, vraiment, ça a été une très très grande réussite. Le roi est absolument satisfait. il se dit, bon, Versailles, ça marche bien. Molière, comme les autres, a parfaitement tenu son rôle et le roi va pouvoir, 4 ans après, rééditer une fête encore plus incroyable à Versailles.
Ces festivités des plaisirs de l'île enchantée durèrent plus d'une semaine, du 7 au 13 mai 1664. Elles furent données en l'honneur d'Anne d'Autriche, la mère du roi, et de Marie-Thérèse, son épouse, devant Dieu. En réalité, cette fête fut dédiée à Mademoiselle de la Vallière, la maîtresse de Louis XIV. Molière y fit jouer plusieurs de ses pièces, au point qu'on dit aujourd'hui que ce fut le tout premier festival Molière, la plus grande fête jamais donnée par un roi au royaume de France.
Je peux vous rassurer tout de suite, le défilé qui ouvrait les plaisirs de l'île enchantée s'est parfaitement déroulé.
Et à nouveau, le facétieux Lagrange, comédien de la troupe de Molière, fut à la fois acteur et témoin de cette splendeur.
Toute la cour était là qui rivalisait d'élégance, les costumes étaient somptueux, ce serait trop long de les décrire. Mais un mot seulement du roi, éclatant, dans une cuirasse d'argent brodée d'or et rehaussée de diamants, avec un casque planté de plumes écarlates.
Je m'établirai en ce château que le roi mon père a fait construire à Versailles. Le château du roi mon père deviendra le temple de la monarchie, et tous les artistes du royaume travailleront à son embellissement.
Messieurs, au travail.
Alors, selon vous, Thierry Sarment, quel rôle a joué Molière dans le rayonnement du Roi Soleil ?
Alors, c'est un rôle un peu à double détente. Molière meurt en 1673, c'est en fait très tôt dans le règne. Il meurt avant la conversion du roi à la dévotion. Et sa gloire et l'élévation de son statut à celui d'un grand auteur intervient 10 ans plus tard, quand ses œuvres complètes sortent en 1682. Et donc on peut dire que si Louis XIV a réalisé que Molière était un grand auteur, il l'a réalisé beaucoup plus tard dans son règne. Moi, il y a un événement qui me frappe, qui est rapporté par Madame Palatine, la deuxième belle-sœur de Louis XIV. C'est en 1698, il y a à Versailles la première représentation théâtrale auquel on laisse assister les petits-fils du roi, le duc de Bourgogne, qui va être l'héritier du trône, le duc d'Anjou, le futur Philippe V d'Espagne, et le duc de Berry. Et la première représentation théâtrale à laquelle assistent ces princes, c'est le bourgeois gentilhomme. Mais les princes pleurent de rire, ils n'ont jamais vu quelque chose d'aussi drôle de leur vie. Voilà. Donc ça montre pour moi qu'à ce moment-là, Molière est en train de devenir un classique.
Mais on est en 1698.
98.
Donc 15 ans après sa mort. Voilà. 25 ans après
25
sa mort.
Ans après sa mort. Mm-hmm. Voilà, voilà. Et quand on regarde les inventaires après décès de l'époque, de hauts fonctionnaires, on voit les œuvres de Molière, elles sont déjà un peu partout. Voilà.
Mais donc vous sous-entendez que les œuvres de Molière de son vivant n'ont pas forcément participé au rayonnement de Louis XIV.
Non. Mais d'ailleurs, il y a toujours un effet de retard. C'est-à-dire que le summum du rayonnement de la culture Louis XIVienne, c'est le XVIIIe siècle. C'est le moment où les Huguenots, dispersés à travers l'Europe, infusent cette culture dans toutes les cours. Tous ces précepteurs qui vont former Frédéric le Grand, Catherine II, ou ces préceptrices auprès de Catherine II, sont des gens qui vont faire lire Molière à l'Europe entière. C'est à ce moment-là que le grand siècle devient le modèle de tout le monde. Mais dans les années 1770, c'est encore l'Italie qui est le modèle.
Est-ce que vous diriez néanmoins que Louis XIV, juste au niveau de sa cour et de ses codes, et de son entourage, est-ce qu'il a une utilité aux pièces de Molière ?
Alors, oui, les pièces de Molière ont malgré tout des implications politiques et sociales. Toutes ces moqueries vis-à-vis de la classe montante, de la bourgeoisie en voie d'annoblissement, qu'on trouve dans Georges Dandin ou dans Le Bourgeois Gentilhomme, parce que Le Bourgeois Gentilhomme, c'est Colbert. Bourgeois gentilhomme dont le père donnait des étoffes à ses amis pour de l'argent. Et on est tout à fait dans ce que l'opinion reproche à Colbert, dont tout le monde dit il est fils d'un marchand de draps, il a vendu du drap à Reims, etc. Et Louis XIV, qui promeut cette classe gouvernementale issue de la bourgeoisie au détriment de l'aristocratie, il n'est quand même pas mécontent de lui faire sentir qu'elle lui doit tout.
Donc c'est quand même aussi un outil politique
à certains égards.
Est-ce que vous diriez, Thierry Sarment, que un des talents de Molière, c'est peut-être parfois, en écho à ce que vous venez de dire, d'anticiper des désirs cachés du souverain, qui est la marque des grands courtisans. Ce que vous évoquez là sur le bourgeois gentilhomme, c'est une manière peut-être pour Molière d'anticiper ce que Louis XIV ne peut pas lui demander.
Alors, au-delà même de ces coups de patte donnés aux ministres issus de ce que Saint-Simon appelle la ville bourgeoisie, il y a quelque chose qui, dans le théâtre de Molière, a pu frapper Louis XIV à un endroit sensible, c'est tout ce plaidoyer de Molière à travers ses pièces pour le mariage d'élection, le mariage de sentiment, qui est complètement à côté des doctrines de l'époque, mais c'est le mariage que, justement, Louis XIV va faire en épousant Madame de Maintenon une dizaine d'années plus tard. En principe, au XVIIe siècle, on se marie pour fonder une famille qui doit perpétuer un patrimoine, qui doit perpétuer une lignée, un lignage, et aboutir à la conservation, puis à la promotion de ce lignage dans l'ordre social. Et en épousant Madame de Maintenon, Louis XIV fait tout le contraire, parce que Madame de Maintenon n'est rien par rapport à lui, et il se crée une famille artificielle en faisant des enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan, en fait des espèces d'enfants de remplacement de Madame de Maintenon. Donc il crée une famille recomposée, qui est complètement aberrante par rapport aux mœurs de l'époque.
Et vous dites en fait que peut-être Molière lui a inspiré ça.
En tout cas, il a installé cette idée du mariage d'amour qui nous paraît une évidence, mais qui à l'époque est presque un scandale. Dans l'idée générale, c'est qu'on pense qu'un mariage d'amour ne sera pas stable, parce qu'il n'est pas fondé sur des choses beaucoup plus solides qui sont la propriété, l'égalité de rang, etc.
Madame de Maintenon, ou la dévotion à l'épreuve du désir.
Je me sens devant vous dans la soumission la plus profonde, la plus coupable et la plus délicieuse.
Vous avez vu que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me retenir d'offenser Dieu et pour ne plus m'abandonner à mes passions. Je suis impuissant à résister à leur violence et je ne me sens plus le désir de le faire. Quand ce sera la volonté de Dieu, il nous fera entrer dans la voie de la sagesse.
À la cour de Louis XIV, Molière s'attaque aux valeurs rétrogrades de son époque. Et en même temps, c'est un courtisan hors pair et rusé. Il veut plaire au roi, mais sans renier son art. Molière est sans doute à l'image de son temps, éloquent et ambigu, brillant et ambivalent, un chien et un loup.
Oui, je crois que Molière est à la fois extrêmement sincère dans ses engagements. Il y a une grande constance, finalement, dans les thèmes de son théâtre. La critique de toutes les formes de l'autorité abusive, la critique de toutes les formes de crédulité du peuple et d'abus de pouvoir sur le peuple. Donc ça, c'est vraiment la ligne idéologique constante qui va des dévots aux médecins, en passant par la société de cour. Et en même temps, il a parfaitement conscience du fait qu'il évolue dans un monde qui est vraiment... Alors, il faut quand même se souvenir de ce qu'était la société de la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est une société où le pouvoir du roi est absolu, c'est un monarque absolu de droit divin, qui règne en maître sur toutes les classes sociales, qui a réussi à diviser une aristocratie qui menaçait ses aînés, hein, Louis XIV, son obsession c'est de ne pas revenir à la Fronde qui avait failli renverser le trône, donc on a vraiment une utilisation du pouvoir. Et également la conscience que c'est pas par le pouvoir de coercition qu'on va régner sur les cœurs. Il y a des textes hein, même de Louis XIV, notamment au dauphin, hein, à son héritier, qui expliquent que c'est par le divertissement, c'est par les loisirs, c'est par l'art et la culture que, d'une part, on va pouvoir gagner les cœurs et les esprits, et en même temps accéder à la postérité. Louis XIV est un roi de guerre, mais finalement, c'est pas en roi de guerre qu'il est parvenu jusqu'à nous, c'est en grand mécène. Et donc, pour un artiste du talent de Molière, ben finalement, il n'y a pas tellement d'autres voies possibles que de se prêter à ce qu'on pourrait appeler une politique de la grandeur ou une politique culturelle d'une grande ambition. Donc, ça n'est pas trahir son art que d'aller là où il peut l'exercer dans toute sa plénitude. Et la cour, c'est l'espace de réalisation artistique. Molière comprend parfaitement que là, il y a une sorte de fenêtre de tir. il y a un coup à jouer en offrant au roi justement les divertissements que le reste de la société ne tolérera pas, mais qui peuvent s'exprimer dans cet espace très préservé. Et donc là, il faut se méfier d'un préjugé qui est en fait une vision rétrospective de notre époque, hein, associée à la monarchie, à l'obscurantisme, une vision très austère, très noire, très... Non, la cour à l'époque, c'est un espace de liberté. Et c'est pour ça que Molière peut être aussi léger dans son analyse du mariage. Parce que à la cour, tout le monde sait parfaitement que le roi multiplie les maîtresses, qu'il va d'une favorite à une autre, et que même s'il y a une souveraine d'apparat, évidemment, son cœur est ailleurs, en fait. Et il y a un jeu de connivence dans le théâtre de Molière là-dessus. Donc il est effectivement à la fois le courtisan et le libre-penseur, et il va aller très très loin dans les deux registres, d'une certaine façon, sans jamais vraiment faire de faux pas.
Bouteille de vie.
Vous nous paraissez bien joyeux ce soir, monsieur Bruno.
Bonsoir à tous, oui. Ce soir, je suis joyeux parce que nous rentrons au pays de la comédie pure avec Amphitryon. Au pays de l'allégresse et de la fantaisie. Nous en avions bien besoin.
Mon nom, qu'incessamment toute la terre adore, étouffe ici les bruits qui pouvaient éclater. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore. Et sans doute, il ne peut être que glorieux de se voir le rival du souverain des dieux. Je n'y vois pour ta flamme aucun lieu de murmure.
Est-ce qu'on sait quelle vision a Molière de Louis XIV ?
Je dirais que c'est impossible à dire, en fait. C'est vraiment, on peut considérer que Molière est dans une stratégie d'évitement qui lui a été profitable, puisque c'est ce qui a permis sa longévité et sa consécration comme favori du roi. Il y a un jeu de connivence. Je pense en particulier au dénouement d'Amphitryon. Donc Amphitryon, c'est quand même cette pièce où on raconte l'histoire de Jupiter qui vient déguiser en général d'armée, honorer entre guillemets la femme d'un grand général qui pendant ce temps-là est au combat en prenant son apparence. Donc c'est une sorte d'apologie de l'adultère et qui se termine par justement un divertissement où, en substance, on dit que c'est un honneur pour une femme et son mari que d'avoir été choisi par un dieu vivant que représente le roi. Donc voilà, on a ouvertement en fait une allusion aux amours à cette époque-là de Louis XIV pour en particulier Madame de la Vallière et d'autres femmes de la cour, et donc une sorte d'évocation amusée et publique finalement du caractère adultère des amours du roi.
Approchons-nous du billard du roi. Sa Majesté gagne, et comme toujours quand elle gagne, elle est de belle humeur, et comme toujours quand elle est de belle humeur, il convient de lui faire sa cour. Oh, voilà qui est admirable, sire.
Dans cette vie de cour, Louis XIV s'amusait à sonder ses courtisans. Il aimait à savoir la sincérité des cœurs.
Oh, monsieur le maréchal de Gramont.
Quitte à être fourbe.
Lisez, je vous prie, ce petit madrigal et dites-moi si vous en avez jamais vu un si impertinent.
Voyons cela. Les roses qui naissaient au balcon de l'aurore. Ces balcons. Jalouse enfin d'un astre sans pareil. Chimène, le soleil vous dore et vous adore. Votre Majesté juge divinement. Voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal.
Celui qui l'a fait est-il bien sot?
Le moyen de lui donner un autre nom, sire.
C'est moi qui l'ai fait.
Oh, sire, quelle trahison! Que votre Majesté me le rende, j'ai lu trop vite.
En conclusion d'un de vos livres sur Louis XIV, Thierry Saint-Mont, vous qualifiez le roi Soleil de Soleil trompeur. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous?
Soleil trompeur parce que nous avons l'idée de ce monarque rayonnant, toujours sûr de lui, qui conquiert, qui réforme, qui ordonne, qui donne à la France une sorte de visage apollinien. Et en fait, Louis XIV est bien loin de tout cela. Bon, on a vu que sa culture est très imparfaite, même les courtisans les mieux disposés sont obligés de l'avouer. On a vu que, loin d'être rayonnant, en fait, il est assez timide, assez méfiant, assez secret, assez dissimulé, assez fourbe, et que son mode de gouvernement ne correspond pas à l'idéal un peu chevaleresque tardif qu'il aime à mettre en scène dans toutes ces grandes fêtes dont Molière a été un des ordonnateurs. Et puis surtout, Louis XIV a prétendu rendre la France plus grande, mais en fait, l'agrandissement de la France, c'est le legs des cardinaux ministres, de Richelieu et de Mazarin. Et lui-même n'a fait que recueillir les fruits qu'avaient semés ses grands ministres.
Qu'en pensait Madame de Sévigné ?
Messieurs,
quand je nous vois, Mansart, Turenne, Colbert, Racine, Boileau lui-même, et Vauban, et Louvois, et la Fontaine qu'on relit, et vous, Molière, qu'on adore, et même aussi votre servante, j'ai l'impression que c'est nous, Louis XIV.
Martial Poisson, est-ce que Louis XIV contrôlait les œuvres de Molière? Est-ce qu'on peut dire que Louis XIV fut quelque part un censeur?
Alors, contrairement à un préjugé tenace, qui là aussi s'est construit rétrospectivement, hein, qui voyait dans ce monarque absolu une sorte de tyran menant les artistes à la baguette et cherchant finalement à en faire des outils de propagande, Louis XIV a très peu et très peu intervenu dans les commandes qu'il passait à ses artistes, si ce n'est par la commande justement, mais en tout cas, il a laissé une très grande liberté à Molière, en particulier dans la façon dont il voulait conduire son théâtre, étant parfaitement conscient du fait que on ne mord pas la main qui nous nourrit. Autrement dit, il n'était pas dans l'intérêt des artistes subventionnés par ce roi mécène, ce roi généreux en fait, qui finalement les faisait participer à son œuvre de magnificence, que de se mettre en porte-à-faux par rapport à lui. Donc il pratique, on pourrait dire, une sorte de censure indirecte par la bienveillance. Et il a compris que, en lieu et place de la contrainte et de la coercition, il faut laisser au contraire la liberté et donner les moyens finalement aux artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ensuite, la vocation et le sens du travail bien fait fait le reste. Et ça, c'est quelque chose qui a été mal compris, y compris au regard de l'histoire. Je pense en particulier à Napoléon, dont on sait, puisqu'il y a une édition à Sainte-Hélène des œuvres de Molière qu'il a rassemblées, qu'il a brochées, qu'il a lues, Napoléon s'étonnait finalement de ce que Louis XIV ait pu laisser passer Tartuffe en disant « Si la pièce avait été faite de mon temps, je n'en aurais pas permis la représentation. » Et donc là, on voit bien en miroir que finalement le grand siècle, le règne de Louis XIV, est un règne beaucoup plus permissif que les règnes suivants, y compris d'ailleurs de la part de chefs politiques qui ont très bien compris, eux aussi, c'était le cas de Napoléon, l'utilisation au titre de la propagande qu'ils pouvaient faire de l'art et des artistes, mais dans une vision finalement beaucoup plus contraignante.
Du Croissy.
Oui, monsieur Poquelin.
Savez-vous bien votre rôle?
Au moment où le roi va arriver, il serait un peu tard pour l'apprendre.
Non, mais ce n'est pas de la princesse d'élite qu'il s'agit, c'est de Tartuffe.
Vous plaisantez, monsieur, dans ce costume de dieu grec? Et tenez, voilà des cris qui annoncent que le roi arrive.
En conclusion de ce sixième épisode, il faut dire que Louis XIV fut un guerrier conquérant, un homme d'État belliqueux. Or, nous gardons une autre image de son règne, celle d'un grand mécène, amoureux des arts, à l'inverse d'un Napoléon, dont on vante toujours en premier lieu ses batailles, ses victoires et son goût pour la guerre. Sans doute que Louis XIV a eu conscience que sa gloire posthume passerait par son soutien à un entourage d'artistes hors du commun. Lully, Corneille, Racine, Lebrun, Beauchamp, le maître des ballets, et Molière, bien sûr, le peintre génial des mœurs de la cour. Une malicieuse connivence d'esprit qui a failli coûter très cher à Molière lorsqu'a éclaté l'affaire du Tartuffe en mai 1664. Une affaire d'État où le plus grand roi du monde, le roi très chrétien, a dû trancher en faveur de l'Église contre Jean-Baptiste Poquelin, fils de tapissier.
Voilà qui, de la part du roi, sera véritablement digne de la grandeur de son cœur et du respect qu'il a pour Dieu et pour l'Église.
L'affaire Tartuffe, c'est l'horizon du prochain épisode.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, Le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Mixage, Basile Bocquer. Reportage, Martine Abbat. Prochain épisode, Au nom de Dieu. Molière, Le chien et le loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.